Le cercle rouge de Edgar Wallace. Chapitre 24. 10 000 livres de récompense. La Fédération des banques d'Angleterre offre une prime de 10 000 livres en récompense de toute information qui permettra l'arrestation du principal membre ou chef de la bande connu sous le nom de Cercle Rouge. En outre, la Fédération susdite a reçu l'assurance du gouvernement que n'importe quelle personne affiliée à cette bande, autre que son chef susdit, ne sera nullement inquiétée pour ses crimes et délits, à condition qu'elle apporte tout renseignement nécessaire à l'arrestation et à la condamnation du chef ou meneur du Cercle Rouge. Cette affiche, imprimée en grand caractère rouge, se trouvait partout, dans toutes les stations d'omnibus, dans tous les bureaux de poste, aux abords de toutes les gares. Derrick Yale la vit en rentrant à son bureau et se demanda quel serait son effet sur les comparses du cercle. Talia Drummond la lut du haut d'un autobus qui s'arrêtait au coin d'une rue, et elle sourit. Mais ce fut M. Froyant que l'affiche parut frapper le plus. En la lisant, la couleur lui revint aux joues et ses yeux se mirent à briller. Il se rendait à son bureau, mais après avoir lu l'annonce de la Fédération des banques, il retourna précipitamment chez lui et ressortit de son tiroir la liste des numéros des billets dont le Cercle Rouge s'était emparé. Il en avait pris note avec patience et presque avec amour. De ses propres mains, il recopia cette liste, ce qui l'occupa une bonne partie de la matinée. La copie, une fois achevée, il écrivit une lettre, y joignit la nouvelle liste de numéros, l'adressa à une firme d'agents d'affaires spécialisée dans la recherche des valeurs volées ou perdues, et alla lui-même mettre son pli à la poste. La maison Egitt avait déjà rendu de bons services à M. Froyant. Et dès le lendemain, son chef, M. James Egitt, petit homme affligé d'un reniflement chronique, se présenta chez le millionnaire. Le nom d'Egitt n'était pas de ceux qui sont universellement respectés et dont on parle comme d'un parangon de vertu professionnelle. Mais sa maison était des plus prospères et inattaquable, quoique plusieurs de ses clients fussent, sinon en marge de la loi, du moins très près de cette marge. Malgré tout, les financiers les plus éminents entretenaient de bons rapports avec les Egitt, car d'une façon ou d'une autre, ces hommes d'affaires réussissaient souvent à retrouver les gentlemen porteurs occasionnels de valeurs perdues et à restituer celles-ci à leurs propriétaires légitimes, dans la plupart des cas sans aucun scandale. « J'ai reçu votre lettre, » dit le petit Egitt à M. Froyant. « Et je puis vous dire tout de suite que les billets dont vous m'avez donné la liste ne vont apparemment pas passer par les mêmes voies que d'habitude en pareil cas. » Il s'arrêta, renifla et poursuivit. Le plus fort dépositaire et changeur de tous a disparu. Et je ne le calomnie nullement en parlant ainsi de lui. Qui était-ce ?
Brabazon.
Brabazon ? Le brillant banquier en fuite ?
Parfaitement.
C'était le plus gros négociant en valeur volée de tout Londres. Vous comprenez, cela cadrait avec ses autres affaires, notamment avec celles qu'il faisait à l'étranger. Il écoulait facilement au loin les papiers frappés d'opposition. Changeant et rechangeant constamment de grosses sommes pour l'exportation, cela allait très bien. Cependant, cela a mal fini. Nous savons d'où est venu ce coup.
Il se corrigea aussitôt.
Et quand je dis que nous le savons, vous comprendrez qu'il s'agit pour nous de simples indices, et non de preuves matérielles que notre qualité d'agréé aux tribunaux nous eût alors obligés à dénoncer. Non, tout cela est extrêmement délicat et nuancé. Quant à vos billets, je crains qu'il ne soit difficile d'en dépister la trace. Beaucoup de billets volés vont aux champs de course, aux paris mutuels, d'autres à l'étranger, où des affiliés les changent facilement. Vous dites que c'est le cercle rouge qui en est cause ?
Oui.
Avez-vous jamais eu quelque affaire ou relation avec ces gens-là ?
Non. Je sais seulement qu'ils sont extrêmement habiles.
Il est fort possible que Brabazon ait été leur homme et les ait servis, consciemment ou non. En ce cas, ils pourraient être actuellement dépourvus de dépositaires, car c'est assez difficile à trouver. Que dois-je faire si je parviens à découvrir quelques traces de vos billets ?
J'aimerais que vous m'en avertissiez immédiatement, moi seul, et personne d'autre.
Vous comprenez que si le cercle rouge apprend que je cherche vigoureusement à remettre la main sur cet argent, ce peut être une question de vie ou de mort pour moi.
L'homme d'affaires s'inclina.
Le cercle rouge l'intéressait sans doute, car il continua à converser assez longuement avec M. Froyant, sans que celui-ci vît où il voulait en venir.
Ces bandes, expliqua M. Aiguitte, ont adopté des méthodes nouvelles, du moins ici. En Italie, des organisations analogues à la mafia se sont longtemps spécialisées dans ces demandes d'argent sous menace de mort. Mais pareille manœuvre semblait impossible en Angleterre. Le plus extraordinaire est la remarquable fidélité des membres du Cercle Rouge. Jamais de traîtrise, jamais de dénonciation.
Je croirais volontiers, reprit-il après une seconde de méditation, qu'il y a là un seul homme qui en emploie plusieurs, leur assigne à chacun sa tâche, mais sans qu'ils se connaissent entre eux. Et même les comparses et sous-ordres ne doivent pas non plus savoir qui les emploie. Sans quoi, l'un ou l'autre l'eût trahi depuis longtemps.
Monsieur Aiguitte se leva.
À propos, reprit-il avant de quitter Monsieur Froyant, connaissiez-vous Monsieur Félix Marle ? Un certain Barnett a forcé son coffre la nuit même où il mourait, de cette étrange façon.
Tout ce qui se rapportait à Marle intéressait fort Monsieur Froyant.
Oui, répondit-il.
Pourquoi ?
C'était un étrange personnage, répondit Aiguitte en souriant. Il avait fait partie d'une association d'escrocs qui opérait dans les milieux financiers français. Son notaire est venu me voir aujourd'hui. Une Madame Marle réclame son héritage et a laissé deviner la vérité. Marle et un certain Lightman avaient fait fortune en France après avoir commis plusieurs crimes. Marle bénéficia d'un manque de preuves, mais Lightman, je crois, passa à la guillotine.
Quelle belle âme il devait avoir, ce Marle ! S'écria ironiquement M. Froyant.
Oh ! Quelle belle âme nous aurions tous si on pouvait y lire ! Répliqua l'homme d'affaires.
M. Froyant garda le silence, car il se vantait toujours d'avoir une vie où l'on pouvait lire comme en un livre. Mais il aurait dû ajouter un livre de contes. Ainsi Brabazon n'était au fond qu'un receleur, et Marle un assassin. Monsieur Froyant se demanda comment ce dernier avait pu échapper au très long emprisonnement auquel il avait certainement dû être condamné. Et il se félicita de n'avoir pas été volé davantage par ce criminel endurci. Il s'habilla et alla dîner à son cercle. Sa voiture ayant dû ralentir au coin d'une rue, il revit l'affiche promettant 10 000 livres au dénonciateur du Cercle Rouge. Et cela lui rappela qu'il possédait 50 000 livres de moins que la veille. 10 000 livres de récompense, marmotta-t-il. Bah, qui oserait ? Pas même Brabazon. Mais il ne connaissait pas Brabazon.